l'écoute d'RFI, il est 20h à Paris, 18h en temps universel.
RFI Soir, Marion Cazeneuve.
Dans quelques minutes, le décryptage sur la présidentielle en Iran. C'est demain, élection anticipée après la mort du président à Raïssi le mois dernier dans un accident d'hélicoptère. C'est avec vous Anne Corpé, c'est d'abord votre journal. Bonsoir Anne.
Bonsoir Marion, bonsoir à toutes et à tous. On vote donc demain en Iran, scrutin présidentiel anticipé. Il y a plus que 4 candidats en lice. Nous ferons le point avec vous, Muriel Paradon. À 3 jours des législatives en France, Marine Le Pen entend fixer les règles en cas de cohabitation. Elle s'attaque au domaine réservé du chef de l'État. Chef des armées est un titre honorifique pour le président, assure la responsable du Rassemblement national. La Cour suprême américaine bloque un accord de 6 milliards de dollars conclu pour indemniser les familles de victimes des crises des opiacés, accord qui excluait la possibilité d'un procès contre le laboratoire pharmaceutique à l'origine de l'épidémie d'overdose dans le pays. Enfin, en Grande-Bretagne, la campagne électorale perturbée par un nouveau mouvement de grève dans les hôpitaux. Les élections législatives auront lieu le 4 juillet. 61 millions d'Iraniens sont appelés aux urnes demain pour les élections présidentielles, un scrutin anticipé du fait de la mort du président Ebrahim Raïssi dans un accident d'hélicoptère en mai dernier. Il y avait 6 candidats, tous au préalable validés par le Conseil des gardiens de la Constitution. Il n'en reste plus que 4. 2 d'entre eux se sont en effet retirés de la course au cours de ces dernières 24 heures. Muriel Paradon, vous êtes avec nous en studio. Le retrait de ces 2 candidats a pour but d'aider les conservateurs à l'emporter car le scrutin reste indécis.
Oui, le maire de Téhéran, Alireza Zakani, a annoncé ce matin qu'il ne participerait plus à l'élection présidentielle de demain. C'est le deuxième candidat à se retirer après Amir Hossein Ghazizadeh Hashemi. Tous deux étaient loin dans les sondages, tous deux sont des conservateurs et ils espèrent que leurs voix se reporteront sur les candidats de leur camp les mieux placés, c'est-à-dire Mohamed Kalibaf, l'actuel président du Parlement qui se présente à l'élection pour la 4e fois, et le radical Saïd Jalili, un autre habitué des scrutins présidentiels. Face à ces 2 conservateurs, il y a le réformateur Massoud Pezeshkian qui pourrait faire la différence. Il suscite un peu d'espoir auprès de la population car il a fait campagne pour de meilleures relations avec les occidentaux afin de lever les sanctions contre l'Iran et améliorer l'économie. Tout dépendra aussi du taux de participation qui était très faible lors des derniers scrutins. Rappelons aussi que le président en Iran a des pouvoirs limités. C'est le guide suprême Ali Khamenei qui dirige véritablement le pays.
Merci Muriel Paradon et on reparlera des grands enjeux de ce scrutin après ce journal dans Décryptage. Je reçois Ahmad Salamatian, analyste et ancien secrétaire d'État aux affaires étrangères. 21 malades atteints de cancer ont pu être évacués en Égypte ce jeudi depuis la bande de Gaza. On vient de l'apprendre de sources médicales. Ils ont pu franchir le point de passage de Rafah. Il s'agit de la première évacuation de ce type depuis la fermeture de la frontière avec l'Égypte en mai dernier. Les bombardements israéliens qui se poursuivent par ailleurs, ils ont visé ce jeudi le nord de l'enclave palestinienne. La défense civile palestinienne fait état de nombreuses victimes. En France, c'est dimanche qu'aura lieu le premier tour des élections législatives et le Rassemblement national est toujours en tête des sondages. Jordan Bardella deviendrait Premier ministre en cas de majorité absolue à l'issue du scrutin, une possible cohabitation qui s'annonce tumultueuse. Marine Le Pen, qui a représenté le parti d'extrême droite aux dernières présidentielles, prévient le titre de chef des armées du chef de l'État est à son avis honorifique car, dit-elle, c'est le Premier ministre qui tient les cordons de la bourse. La politique étrangère et la défense sont normalement des prérogatives du président français, mais le Rassemblement national semble donc vouloir bousculer les règles du jeu dans ces conditions. Quelle marge de manœuvre pour Emmanuel Macron en cas de cohabitation avec le RN ? Baptiste Coulon a posé la question à Olivier Roucan, enseignant-chercheur en sciences politiques. On l'écoute.
La coutume a fait que le président décidait souvent seul. En temps de cohabitation, il est clair que le chef de l'État doit davantage composer avec un gouvernement qui lui est opposé politiquement. Il perd un peu, je dirais, de sa majesté sur ces questions. Ça s'est vu entre Jacques Chirac et Lionel Jospin au moment de la guerre au Kosovo. et un partage de la décision. Donc, ce sont des négociations. Et notamment, il y a la fameuse question de l'envoi de troupes en Ukraine. Il est clair que il y aurait là, sans doute, matière à discussion, à débat. Ce serait un point de conflit entre le gouvernement et les chefs de l'État. Est-ce que ça bloquerait totalement l'objectif présidentiel? On peut pas le dire. Le cas de figure qui se présenterait là est relativement inédit.
Un moment phare ce soir dans la campagne en vue des élections. Aux États-Unis, le premier débat entre Joe Biden et Donald Trump. Il sera diffusé sur la chaîne de télévision CNN. Les deux candidats sont au coude à coude dans les sondages en vue du scrutin qui se déroulera le 5 novembre prochain. Le duel aura lieu en l'absence de public et le micro ne sera ouvert que pour celui qui a la parole afin d'éviter que les candidats ne s'interrompent mutuellement. Toujours aux États-Unis, un revers pour la famille Sackler, accusée d'être à l'origine d'une épidémie d'overdose dans le pays. Les propriétaires du laboratoire qui a commercialisé un médicament opiacé très addictif avaient conclu un accord avec des familles de victimes d'overdose. Ils étaient prêts à verser quelque 6 milliards de dollars. Les Sackler se croyaient donc à l'abri d'un procès, mais ce jeudi, la Cour suprême a rejeté la validité de cet accord. Explication de notre correspondant David Thompson.
Cet accord d'indemnisation à 6 milliards de dollars avait été signé en 2022 entre le laboratoire Purdue, visé par une avalanche de poursuites, et 50 États américains, à une condition: l'arrêt des poursuites judiciaires contre la famille Sackler. Cette famille, propriétaire du laboratoire, est accusée d'avoir fait fortune grâce à la crise des opiacés avec la surprescription de son antidouleur, l'oxycontine, considéré comme le déclencheur de cette crise sanitaire qui a fait plus d'un demi-million de victimes en 20 ans aux États-Unis. Les familles de ces victimes n'avaient pas consenti à l'immunité de la famille Sackler et c'est ce qui a poussé le ministère de la Justice à saisir la Cour suprême. À une courte majorité d'une voix, à 5 contre 4, la plus haute juridiction des États-Unis annule donc cet accord aujourd'hui. La loi américaine n'autorise pas l'immunisation de toute poursuite sans le consentement des plaignants, justifie l'un des juges qui a voté pour. Mais en annulant cet accord controversé, cette décision aura un impact dévastateur sur des milliers de victimes, déplore l'un des juges qui, lui, a voté contre. Car en rejetant cet accord, la Cour annule du même coup les milliards de dollars d'indemnisation négociés après des années de procès par ces victimes, désormais contraintes de reprendre le chemin des tribunaux. David Thompson, Miami, RFI.
Les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'UE réunis à Bruxelles, c'est la première fois qu'ils se retrouvent depuis les élections européennes. Un sommet pour valider les postes clés de l'UE, les jeux sont presque faits. Ursula von der Leyen devrait être maintenue à la tête de la Commission. L'ancien Premier ministre portugais António Costa devrait présider le Conseil européen. La Première ministre estonienne Kaja Kallas devrait diriger pour sa part la diplomatie de l'Union européenne. Les hôpitaux britanniques perturbés par un mouvement de grève, les internes en médecine débrayent depuis ce matin et jusqu'à mardi. Ils réclament de meilleures conditions de salaire. Un mouvement social qui intervient en pleine campagne électorale. Reportage sur le piquet de grève de Guy Hospital, juste en face du Parlement à Londres. Emeline Vin.
Les internes réclament la revalorisation de 35% de leur salaire pour compenser l'austérité des années 2010. Soumi Manirajan, obstétricienne et représentante du syndicat BMA à l'origine de la grève.
Un docteur fraîchement diplômé touche 15 livres de l'heure, environ 18 euros. J'ai été diplômée en 2021 et j'ai vu mes collègues, les amis avec qui j'ai étudié, quitter le pays pour aller en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada, où ils sont payés correctement. Ceux qui restent se retrouvent avec d'autant plus de travail et s'épuisent.
C'est la 11e fois que les jeunes médecins font grève. En moins de 2 ans, les négociations n'avancent pas. Cette psychiatre se sent
épuisée. Nous n'aimons pas faire grève. Nos collègues sont conciliants, mais on sait que ça rajoute de la pression à tout le monde. On voudrait arrêter, mais nous avons l'impression que nous n'avons pas d'autre choix.
Sur le pont en face de l'hôpital, des patients ont déployé une bannière en soutien aux grévistes. Hope Worsdale a été opérée en début d'année.
Les soignants ont été formidables, mais j'ai bien vu qu'ils étaient sous pression. Ils n'ont ni le temps, ni les ressources, ni la possibilité de faire leur travail correctement. Or, les conditions de travail des soignants, ce sont les conditions dans lesquelles les patients sont traités.
À une semaine des élections, les médecins jugent les promesses des grands partis en matière de santé insuffisantes. Emeline Vin, Londres, RFI.
On termine avec du basket et le processus de recrutement des jeunes joueurs en NBA qui a cette année distingué le Français Zachary Risacher, sélectionné en première position à Atlanta. Bientôt 20h10 à Paris, c'est la fin de ce journal.